Eh bien, aujourd'hui encore, nous donnons la parole à un père qui a accepté de venir nous raconter son parcours après une séparation. Alors ici, l'idée est très simple, laisser les papas parler avec leurs mots de ce qu'ils ont vécu, de ce qui était difficile, de ce que ça a changé pour eux dans leur rôle de père, un témoignage libre, sans jugement, pour mieux comprendre ces parcours souvent invisibles. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en ligne avec Redouane. Comment ça va, Redouane ?
Ça va bien, merci déjà de prendre mon témoignage.
Et bah avec plaisir. Voilà. Et bah pour commencer, petite entrée en matière, est-ce que tu peux nous raconter ton histoire de papa après la séparation, comment ça s'est passé ?
Après la séparation, ça a été un petit peu compliqué. Bah déjà, si je vais mettre un petit point sur la séparation, quand madame s'est séparée de moi, parce que c'est ça, j'étais pas en bonne condition, j'ai eu une maladie qui a été reconnue un mois plus tard. J'ai découvert qu'elle avait rencontré un autre homme sur son téléphone. Et comment, madame, elle l'a récupéré de force et puis elle était violente envers moi. Et les choses, c'est qu'aujourd'hui, c'est elle qui exprime qu'elle a vécu de la violence conjugale qui est faux. Moi, je me suis retrouvé aux soins intensifs au mois de mai. Parce que j'ai une insuffisance cardiaque. J'ai eu une insuffisance cardiaque entre 10 et 15% avec des œdèmes pulmonaires. Et cette insuffisance cardiaque-là, on ne sait pas quand elle est arrivée. Et mon état de santé a commencé vraiment à se détériorer depuis septembre, octobre 2025.
Peu de temps après la rupture, en fait.
Non, avant la rupture.
Un petit peu avant, ouais.
Mon état de santé s'est vraiment détérioré les quelques mois avant la rupture, au mois de janvier, février, mars, quand je suis allé en mars voir mon docteur généraliste. Elle était inquiète, elle a appelé le cardiologue en urgence et j'ai eu rendez-vous un mois après. Et entre-temps, j'ai eu énormément d'œdèmes pulmonaires et j'étais dans l'incapacité de savoir vivre correctement. Quand je suis allé aux soins intensifs, on m'a dit que j'aurais pu mourir à n'importe quel moment dans cette période-là, puisqu'ils étaient passés après quelque chose. Pendant que j'étais en soins intensifs, madame, elle a fait des procédures. Voilà, elle a été accompagnée par une travailleuse sociale qui l'a orientée vers différents organismes, dont le CIDFF, le Centre d'information des droits des femmes et de la famille. Et donc derrière ça, elle a eu accès à tout l'aspect juridique. Après, ça a découlé qu'au mois de septembre, de mois de mai jusqu'en septembre, j'allais à l'hôpital et j'allais en rééducation cardiaque. Donc madame était déjà partie. Madame est partie, courant avril, entre avril et mai. Donc je n'avais plus de contact avec elle. Et c'est là qu'elle a fait beaucoup de dénonciations calomnieuses et des fausses plaintes qui ont emmené au mois de septembre à avoir eu une ordonnance de protection d'urgence. Donc il n'y avait pas de certificat médical, il n'y avait pas de photo, ça a été juste ces dires, il n'y a eu aucun fait qui disent que ce qu'elle a vécu, c'est vrai. Donc moi, derrière ça, l'ordonnance de protection d'urgence a été déboutée. J'ai dû me débrouiller pour pouvoir trouver un avocat parce que quand on est en jugement, c'est c'est en 6 jours qu'il faut qu'il y ait un jugement. Et il m'a fallu 3 heures, 20 coups de téléphone à différents avocats pour qu'il y en ait un qui dise oui, j'accepte votre dossier. C'était le lundi. Le mercredi, il devait y avoir une audience. Donc j'ai eu 2 jours pour essayer de trouver le maximum d'éléments pour pouvoir me défendre. Et donc ça a été débouté. Puis il y a eu un autre jugement. Et là, je suis en jugement provisoire, en garde alternée pour l'instant. Mais les différents chefs d'accusation qui ont été mis contre moi, aujourd'hui j'ai peur de perdre la garde de mes enfants.
Parce qu'elle demande la fin de la résidence alternée, c'est ça ?
Elle, dès le départ, elle a demandé que je voie les enfants 3 heures dans un centre social, tous les 2 semaines. Le truc, il faut bien savoir, au niveau de mon vécu, moi aujourd'hui, je vis dans la région Bretagne, dans le golfe du Morbihan. C'est pas du tout ma région. Je connais personne ici. Et au départ, j'étais dans les Ardennes. On a vécu plusieurs années dans les Ardennes, tout allait vraiment bien. On a vécu 3 ans dans le golfe du Morbihan. Les premières années, elles étaient très bien. Moi, j'ai changé de vie pour elle parce que sa famille était en Bretagne. Et dès qu'on est arrivé ici, madame contactait beaucoup avec sa maman et sa sœur, qui ont exactement le même schéma familial. Hein, schéma familial séparé, des prestations sociales, justement, en tant que parent isolé. C'est exactement la même représentation de ce schéma familial. Et après, des tensions ont commencé à être créées. Justement parce que j'étais le seul à m'occuper des charges de la maison. À la fin, comme ma santé commençait à se détériorer, je n'étais pas encore au courant. Donc j'ai eu un état de faiblesse physique et c'est là que madame était voir quelqu'un d'autre. Et après, j'ai eu tout type d'accusations, violence conjugale. Et ça, la violence conjugale, ça a été débouté. Donc après, ça a été, on m'accusait de dénigrement et là, aujourd'hui, on m'accuse d'instrumentaliser les enfants. Mais le truc, c'est que moi, j'ai aucun soutien. De mon côté, madame, elle va voir les travailleurs sociaux, ils font les démarches avec elle. Et j'ai été entendu, parce que madame aussi, par rapport aux accusations qu'elle fait, elle a fait des démarches sociales à la cellule de recueil d'informations préoccupantes. J'ai été entendu par l'assistante sociale qui travaille avec madame et une autre péricultrice. Je n'ai même pas ouvert la bouche que la travailleuse sociale disait déjà que j'étais une personne dangereuse, qu'elle ne me connaissait pas. Et ça faisait 7 jours, une dizaine de jours que j'étais sorti de réadaptation cardiaque avec 25% de capacité cardiaque dans le ventricule gauche de mon cœur. J'étais dans un état physique qui était quand même assez dur. Après, a suivi d'autres rendez-vous avec d'autres travailleurs sociaux, mais du même service. Pareil, elles avaient déjà préparé, l'entretien. Et chaque entretien qu'elles préparaient, je ne pouvais pas expliquer les faits, ce qu'ils étaient réellement passés.
Donc tu as la sensation que l'entretien a été préparé à charge sans te laisser de possibilité d'expliquer ta version des choses, en fait.
Exactement, parce que dès que je suis arrivé, elles m'ont dit, le compte-rendu de nos collègues, ça a été ça. Et j'essayais de donner, moi, ma version des faits. J'ai voulu donner des éléments qui ont été rejetés, qui ne voulaient pas prendre. Et voilà, après, il y a eu une enquête qui a été en cours. J'ai eu une conclusion de l'enquête. Et quand elles m'ont dit la conclusion de l'enquête à l'oral, j'ai bien vu que c'était dénigrant contre moi. Pourtant, j'ai quand même fait certains signalements au niveau de mes enfants, parce qu'aujourd'hui, mes enfants sont quand même avec leur maman dans une situation de précarité. Puisqu'elle vit à titre gratuit chez différentes personnes, donc les enfants sont basculés d'un endroit à un autre, et ça, je l'ai fait remonter comme signalement, et non, pour eux, c'est tout à fait normal, et c'est tout à fait légitime, et c'est là que je ressens quand même une discrimination de genre, parce que moi, je n'aurais pas de logement, ou je vivrais à titre gratuit chez quelqu'un, je ne pense pas pouvoir avoir la garde alternée, en sachant que moi, au départ, dans les jugements, j'avais proposé quelque chose de provisoire pour l'intérêt supérieur de l'enfant. Je vis à 800 mètres de l'école des enfants. Moi, j'aurais préféré, comme je dis, qu'au départ, que les enfants viennent, qu'elles les prennent un week-end, un milieu de semaine, pour leur éviter de faire 50 km tous les jours. Parce qu'un enfant de 3 à 5 ans, faire 50 km tous les jours, vivre à 4 dans un lui, pour moi, c'est dans mon esprit et dans mon cœur, il y a quelque chose qui va pas bien. Mmh. Et derrière ça, moi aujourd'hui, quand je vois un petit peu la façon dont les choses se mettent en place, je n'y vois pas l'intérêt supérieur de l'enfant. Mmh. Et après, quand elle retrouve un logement, c'est là, j'avais demandé quelque chose de provisoire au départ, que c'est moi qui ai la garde, mais dès qu'elle a trouvé un logement, qu'on reparte sur des bases de garde alternée. Et aucun dialogue par rapport à ça, et madame ne fait que des incriminations et du dénigrement envers moi.
Alors comment se passait la relation avec tes enfants avant cette séparation ?
Ben avant, avec mes enfants, avec elle, dans les années qu'on est arrivé en Bretagne, et même dans les années quand on était dans les Ardennes, ça se passait très bien. Ça se passait très bien, on était heureux, les enfants étaient heureux. Et aujourd'hui, ils le sont quand même toujours, parce qu'on les éloigne du conflit.
Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi au début, après cette séparation ?
Moi, ce qui a été plus dur pour moi après cette séparation, ben voilà, déjà d'une, c'est le manque de soutien. Le gros, c'est pas au niveau de la séparation, c'est au niveau moi, aujourd'hui, ce que j'ai difficile à vivre, ben, c'est les procédures qui se passent. Je suis complètement perdu par rapport aux procédures qui se passent. Aujourd'hui, quand on est papa, on peut être accusé de tout sans avoir aucune aide juridictionnelle. On n'a pas d'informations juridiques que la personne qui nous accuse, qui va au centre d'information des droits de la famille et des femmes, sont assistées, j'ai généralement, par une juriste pour leur dire les procédures à adopter. Et que quand on est papa, nous, on n'a pas cet organisme-là.
Donc tu te sens mis de côté en tant que père, en fait.
Oui, tout à fait.
Et aujourd'hui, comment se passe le lien avec tes enfants ?
Aujourd'hui, quand ils viennent à la maison, ils sont très contents de revenir à la maison. Ils sont très contents d'être juste à côté de leur école. Ils sont très bien ici. Ils se sentent très bien. Ils sont épanouis. Tout au début de la séparation, il faut savoir que chaque fois qu'il y avait un passage de bras, les enfants, dans le premier mois, pleuraient d'aller avec leur maman parce qu'ils ne savaient pas où ils allaient vivre. Et je le ressentais.
Et qu'est-ce qui est le plus compliqué à gérer pour toi au quotidien ?
Aujourd'hui, ce qui est vraiment le plus dur à gérer, c'est les accusations qu'elle a fait contre moi qui sont difficiles à gérer psychologiquement parce que je suis pas l'homme qu'elle décrit. Et voilà, et aujourd'hui, je sais pas, je me sens mal par rapport à ça. Je ne comprends pas les accusations qu'elle a fait contre moi puisque toutes les démarches que j'ai fait depuis qu'on est ensemble a toujours été dans l'intérêt de ma famille. Et là, je ne comprends pas.
Et qu'est-ce qui te fait tenir malgré tout ça ?
Ce qui me fait tenir, je ne sais pas, j'essaie de trouver de la force en moi, c'est mes enfants. Mais voilà, j'ai une épée d'Amoclès au-dessus de la tête. J'attends le 31 mars l'audience, j'attends le prochain jugement. Je sais pas, aujourd'hui, la seule chose, c'est que je toque à toutes les portes pour pouvoir qu'on m'aide. Récemment, j'ai découvert un groupe de soutien. Et c'est quand justement, je suis invité à ce groupe de soutien-là, on s'est un petit peu parlé des problèmes qu'on rencontre en tant que papa avec la perte des enfants, avec un problème où on n'a pas accès aux enfants. J'ai quand même entendu des histoires qui sont plus difficiles que les miennes. Aujourd'hui, je sais que je ne suis pas tout seul et c'est ça aussi qui me fait tenir.
Alors, on peut les citer, hein. C'est le collectif Parents Action, c'est ça ?
Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Ça fait quelques semaines ou peut-être un mois. J'ai déjà été à deux, trois réunions de parents où chaque personne parle, chacun son tour, de son vécu, de son ressenti. Des fois, il y a des thèmes, des fois, il n'y en a pas. Et c'est vrai que aujourd'hui, on est quand même beaucoup de papas à vivre des accusations qui sont calomnieuses. Et c'est ça qui est dangereux, c'est qu'aujourd'hui, en face de nous, les accusations qu'on nous porte, c'est devenu une arme. Mmh. Et nous, on n'a aucun moyen de se défendre. Il n'y a aucun organisme de l'État qui nous défend. Et moi, ce que je trouve exagéré, hein, c'est quand une personne vient dans des organismes comme le CIDFF, et c'est tout à fait normal que ça existe, et quand elle commence à raconter justement des accusations sur un papa, mais moi aujourd'hui, j'ai l'impression que plus c'est gros, plus on y croit. Plus on va inventer des choses et qu'on va grossir et qu'on va argumenter des choses, plus ça va être crédible. Aujourd'hui, je vous assure, hein, si on écoutait vraiment toutes les accusations qu'il y a sur les papas, ben, le papa, on le transforme en monstre et c'est dénigrant.
Dans ces réunions donc, du coup, du collectif Parents en Action, tu retrouves beaucoup de similitudes dans le parcours des uns et des autres. Est-ce que aussi il y a, je sais pas, par exemple, un partage de bons plans, retour d'expérience qui t'est utile et qui t'aide à tenir?
Ben oui, on a un partage de procédures. On n'a pas la chance de savoir trouver un accès juridique parce que beaucoup de papas ont été confrontés aussi à téléphoner pour pouvoir faire valoir leurs droits parentaux. Et généralement, il n'y a aucun service juridique qui est accessible et qui est gratuit pour les papas. Et dans ces réunions-là, on parle de tout. Et c'est vrai qu'on commence à se focaliser sur les aspects juridiques et les droits des parents, les droits des deux parents. Et ça parle beaucoup du JAF. Donc voilà, aujourd'hui, la priorité, c'est l'intérêt supérieur des enfants, mais je ne vois pas où est l'intérêt supérieur des enfants si un des deux parents est écarté de la vie des enfants.
Avec le recul, qu'est-ce que tu referais différemment dans ta vie de couple, si tu pouvais revenir en arrière?
Je ne serais pas venu en Bretagne, tout simplement. Je n'aurais pas fait... Je n'aurais pas été... du côté de la famille de ma compagne, parce que c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'il y a eu des complications. C'est que elle a fait vraiment une reproduction d'un schéma familial de sa maman qui est aussi séparée et qui a fait aussi des accusations sur son ancien beau-père, et de ma belle-sœur aussi qui a fait le même type d'accusation sur son ancien compagnon qui ont deux enfants ensemble. Donc c'est vraiment ça, on se demande pourquoi elles font ça, et moi pour l'instant je n'ai pas trop compris. Du moins, je crois qu'il y a certaines personnes qui peuvent avoir des intentions d'avoir un statut de parent isolé, et je commence à m'orienter dans cette question.
Et qu'est-ce que cette épreuve t'a appris?
Cette épreuve, qu'est-ce qu'elle m'a appris? Que c'est difficile d'être un père aujourd'hui et qu'il faut que les choses changent, que le droit des papas soit reconnu au niveau de l'État, parce que j'ai l'impression que aujourd'hui, quand on est papa, on est lésé par rapport à la maman sur les mêmes droits de garde. Donc voilà.
Ouais, il n'y a même pas 12% hein, des papas qui arrivent à obtenir la résidence alternée lorsque la maman s'y oppose. Et en effet, vous êtes nombreux à témoigner d'une envie de faire changer les choses à ce sujet. Pour finir, si tu avais un message à faire passer à d'autres parents qui vivraient ta situation, ce serait quoi?
Moi, pour l'instant, je lâche rien. J'attends des procédures et je ne lâcherai rien pour mes enfants. J'essaye de trouver des méthodes de communication avec la maman, mais c'est très compliqué puisque aujourd'hui, quand une maman se sépare du papa, du moins dans mon cas, elle ne veut plus voir le papa, et je ne sais pas si c'est une généralité, j'espère que c'est une exception, mais aujourd'hui, par rapport aux témoignages aussi que j'ai entendus des différents papas, je me rends compte que c'est quasiment des situations similaires. Pour moi, je vois que ça devient très rare que les enfants aient encore les deux parents. C'est la plupart des cas, les enfants avec, que c'est la maman. Et malheureusement, dans ces cas-là, il y a aussi un éloignement géographique et Et je trouve ça pas normal. On ne protège pas les papas aujourd'hui, qu'il n'y ait pas de loi, qu'il n'y ait pas de réforme, qu'il n'y ait pas des choses qui ont été prises en compte pour protéger les papas.
Donc beaucoup de similitudes dans les parcours, dans le tien et ceux des différents papas que tu rencontrais, notamment au travers de tes actions militantes, de tes actions au sein du collectif. Et puis voilà, le mot c'est ne rien lâcher, quoi, c'est ça hein?
Oui, voilà, c'est, ben, pour l'instant, je même si je suis un petit peu détruit, je suis un petit peu blessé, ben, je continue à faire toutes les démarches qu'il faut pour qu'il y ait une égalité de garde avec les enfants.
Merci à Redouane.